ces mesures. Mais voilà, si on a, je veux dire ça ou jouer au loto, je veux dire c'est un peu la même chose. Mais c'est pas un token que je garderai indéfiniment. C'est juste dire, ben voilà, il y a eu son intronisation aujourd'hui. Voilà, c'était un peu fun d'acheter un peu un token officiel de sa part et voir un peu ce que ça allait faire. Moi, en tout cas, il m'a permis d'acheter un tout nouvel écran PC.
Oh, mais écoute, bravo, on est content pour toi.
Ah oui?
Mais oui, je suis un peu navrée pour nos auditeurs. On se rend compte que dès que tu parles et que quelqu'un parle en même temps, hop, ça coupe ta voix. Donc on va essayer de faire un ping-pong bien, tu vois, bien maîtrisé. Voilà, j'arrête de parler. Tu peux parler?
D'accord.
C'est génial. J'avais une question pour toi, Chris. Qu'est-ce que justement l'arrivée de Trump dans ce monde des cryptos, au-delà de ce qui est en train de se passer là sur les marchés, pour toi, ça t'évoque quoi?
C'est un peu compliqué. En fait, ce qui m'évoque, c'est que Trump, moi, comme je te l'ai dit, c'est quelqu'un qui a fait le ménage un petit peu, même avant d'arriver par rapport à la SEC au gouvernement. Il avait déjà dit à Gary Gensler, qui était le président de la SEC, donc c'est le gendarme des finances aux États-Unis, lui a déjà dit, écoute, si tu pars pas toi-même, donc si tu démissionnes pas, je vais te virer. Donc ça a été clair, sauf que bah, il s'est viré tout seul. Donc Gary Gensler, son départ est aujourd'hui. Bye bye Gary. En tout cas, moi je suis bien content qu'il soit plus là, ce monsieur. Et Trump fait dans le domaine de la crypto-monnaie, dans le domaine où on est, fait exploser un peu tout. Donc ça veut dire que bah, les gens qui avaient un portefeuille, je vais prendre un chiffre bas pour faire bien, je veux dire, t'as 1 000 € dans ton portefeuille. Dès que Trump a été sûr d'être élu, bah, les portefeuilles ont fait x2,5, x3 facilement. Sur leur crypto-monnaie parce qu'il y a de l'engouement et que Trump est pro-crypto. Donc moi personnellement, j'adore ce businessman. Donc voilà, je vais pas le critiquer. Il a des casseroles là derrière lui, mais voilà, c'est qui n'a pas des casseroles derrière soi.
C'est intéressant ce que tu dis, tu vois, en fonction de là où tu regardes, toi personnellement, tu y vois un intérêt puisque il est pour cette nouvelle façon d'échanger de l'argent. Qui est déjà aussi accepté par d'autres pays. C'est de nouveau peut-être encore l'histoire de cette course qui n'est peut-être pas courue par l'Europe, tu vois. On parlait de ça là tout à l'heure sur la course spatiale, sur la conquête spatiale. On a fait une émission spéciale justement sur les cryptos la semaine dernière qui était super intéressante. Et on parle de nos pays qui sont aussi dans les balbutiements, quoi, alors que les autres sont déjà en train de se positionner. Et tu vois que ça crée quand même un écosystème, puisque une personne ici en Belgique, Chris, pour ne pas citer, voilà, et d'autres sont déjà en train de profiter de ce monde, de ce marché. Donc je peux comprendre, toi, que Chris, tu vois ça d'un bon œil en te disant, bon, il a viré le gars qui était contre, parce que moi, ça me permet de continuer à travailler, en fait. Donc ça a une incidence, ces élections américaines, sur toi, même dans ta vie personnelle.
Mais ce qu'il faut bien se rendre compte aussi, que ce soit sur moi ou sur d'autres, par exemple, il y a beaucoup de gens qui ont retourné leur veste, par exemple, ben, comme Bilal a dit, qui était invité aujourd'hui à cette belle journée pour Trump. Ben forcément, t'avais du Bezos, par exemple, et Jeff Bezos, tout le monde le connaît, grand patron d'Amazon. C'est quelqu'un qui critiquait fermement, qui était contre Trump. Il soutenait beaucoup plus Kamala Harris au moment de ça. Et là, le problème, c'est que maintenant, bizarrement, je retrouve ma veste, ben, tu m'invites, je viens et je vais te filer un peu d'argent pour graisser, pour arrondir les angles. Et le fond, pourquoi Zuckerberg est là? Pourquoi, enfin voilà, pourquoi les plus, je vais dire, de la fintech sont autour de lui à ce moment-là? Bon, Elon Musk, c'est un peu son copain et on peut pas, voilà, lui fait pas du cinéma, je pense. Il sait bien à coups de millions, mais tous les autres autour, c'est des gens qui, les trois quarts l'ont critiqué et maintenant lui mangent dans la main parce que il est arrivé au stade ultime du président.
Ouais, c'est clair, c'est bien que tu le dis. C'est vrai que on a parlé notamment parce que c'est vrai que j'avais pas suivi le chemin Bezos, mais c'est vrai que c'est très très visible avec Mark Zuckerberg ces dernières semaines et même un peu plus parce qu'il y a une vraie transformation chez lui, qu'elle soit physique, idéologique, et puis là récemment sur ses dernières prises de position avec un changement total, un retournement de veste absolu là. C'est la monnaie et le revers de la monnaie, quoi, parce qu'on part sur totalement autre chose. Ce qui nous pose des questions, maintenant, c'est vrai, parce que on est sur Insta, on est sur, on utilise WhatsApp, ouais. Les personnes sont sur Facebook, donc quelque part, on participe à une économie qui défend des idées qui sont peut-être pas du tout, qui sont très loin de nos propres valeurs. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà.
Après. Malheureusement, il n'y a pas que les réseaux sociaux hein, pour lesquels on participe à une économie qui n'est pas forcément en accord avec nos valeurs. Moi, je suis congolais, j'ai un iPhone. Ouais. Ils vont chercher les mines, enfin,
les
matériaux chez moi. Donc voilà. Pourtant, bon. Donc, mais malheureusement, il y a plein de choses pour lesquelles on n'est pas. Tu vois ce que je veux dire.
On ferme les yeux.
Voilà, on ferme les yeux un peu. Et c'est vrai que c'est dommage, mais bon, encore une parmi tant d'autres. Hein, j'ai envie de dire, c'est un peu fataliste, dit ça comme ça, mais c'est un peu vrai aussi.
Vous êtes Bilal et Noah un peu intéressés par la crypto?
Sans plus.
En vrai. Je pense que je devrais m'y intéresser un petit peu parce que il y a quand même quelque chose à aller chercher là-bas.
Ah.
Il y a un truc à aller chercher dedans. Donc en vrai, je m'y intéresse pas trop maintenant.
Money.
Mais t'as vu, ouais, c'est bien.
L'argent.
C'est ce qu'on cherche. Que tu le veuilles ou non, on est dans un monde capitaliste. Donc du coup, il faut essayer de chercher l'argent où on peut le trouver. Donc la crypto, je devrais m'y intéresser.
Ben en tout cas, justement, Chris donne des formations sur le sujet. On a fait une émission extrêmement intéressante jeudi dernier autour de ça. On est parti vraiment à échelle humaine, c'est-à-dire du newbie en ma personne, la Rebelle Rose, pour me présenter. J'ai posé toutes les questions possibles et imaginables et j'ai compris. J'ai compris ce qui se passait dans le monde de Chris, que Chris connaît parfaitement bien. Chris, merci d'avoir été avec nous pour répondre à cette question autour de la Trump crypto.
Invitation en tout cas, c'est gentil.
Mais écoute, avec plaisir, t'es le bienvenu quand tu veux. On t'embrasse bien fort. Attends.
Et moi aussi, je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne soirée et voilà, et que tout continue.
Oh, merci Chris, à très vite. Bisous à toute la famille. Oui, tu peux aller regarder hein, cette émission, elle est disponible sur le replay de Fun Radio, vidéo gentiment préparée par notre amie Irène ici présente.
Ah bah très bien, bah j'irai voir.
Mais oui, parce qu'on prend vraiment les choses à la base, au monde de la blockchain et de comprendre comment tout ça fonctionne sans donner évidemment de conseils d'investissement. Parce que ça reste un risque comme tous les investissements et toutes les choses dans lesquelles en lesquelles on croit. Bon, en parlant de choses en lesquelles on croit, notre ami Donald Trump, on a parlé des réseaux sociaux, un peu sa mainmise. En tout cas, il a autour de lui des personnes et des amis de présentement qui sont ses amis. On verra plus tard qui lui donne accès à des médias, à des datas, à la conquête spatiale. Alors, on n'a pas parlé du côté militaire. C'est quoi sa position militaire? On a parlé de la guerre, que lui veut totalement sortir de toutes les décisions prises qui pourraient mettre certains pays en guerre, ou il nous parle du fait que potentiellement il serait capable, en 24 heures, de sortir de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est réel, ça?
Je dirais pas que c'est forcément réaliste. Je pense qu'il y a personne qui pense que c'est réaliste. Maintenant, c'est vrai que les Ukrainiens, on sent qu'il y a cet essoufflement. On sent que, allez, c'est bon. À un moment, faut qu'on finisse la guerre. Mm-hmm. Faut que ça stoppe. Il y a cet essoufflement qui se fait ressentir dans la population ukrainienne. Donc, je pense que s'il s'y mêle vraiment, il peut arrêter la guerre. Pas en 24 heures, mais il peut.
À coup de décision économique?
À coup de négociation, je pense. C'est un businessman, donc il va négocier comme il l'a toujours fait. Je pense que même pour Poutine, c'est pas non plus le bon coup que de rester dans la guerre. Et les deux parties, en fait, veulent, je pense, arrêter la guerre. Les Ukrainiens essoufflés, les Russes n'ont plus aucun intérêt de toute façon. Enfin, on a même des manifestations anti-Poutine par rapport à la guerre, guerre ukrainienne. Il y a des désertions. Donc même pour Poutine, dans sa politique de base, il veut, je pense, arrêter la guerre. Maintenant, qui est-ce qui va faire volte-face en premier, ça je ne sais pas. Mais je pense que c'est là où Trump va jouer un rôle et va apporter cette négociation. Il va falloir probablement suivre de près, mais en 24 heures, j'ai du mal à le croire.
Oui, on parle plutôt de quelques mois, quoi, j'imagine, parce qu'il y a tout un...
Quelques semaines, quelques mois.
Ah oui, carrément. Ça peut se faire relativement vite. Mais donc, ça voudrait dire... Enfin, s'il le fait, ça, c'est vraiment dire qu'il arrive comme le sauveur, comme le conquistador, tu vois. Alors que la guerre a commencé quand même... Oui, enfin, je veux dire, voilà. Donc, il joue un peu un jeu, tu vois, de mots et de rhétorique et de... Qu'est-ce qu'il y a, Irène? Qu'est-ce qui se passe?
Ça a un peu rien à voir, mais enfin aussi parce qu'on parle de Trump, mais juste là j'ai ouvert Instagram et je vois une vidéo de Elon Musk qui fait un salut nazi. Donc pendant son
discours. Mais c'est un vrai truc ou...
Oui, c'est genre là.
Mais c'est pas de l'IA. Attention,
non,
hein.
Pendant son discours, genre il a dit My heart will go on ou je sais pas quoi. Et il a fait genre salut nazi.
Non, c'est pas possible.
Mais
attendez, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Allons voir, parce que là tu viens de l'annoncer à l'antenne, on doit aller vérifier, parce que si c'est faux. It's fake news. Is it fake news, tout le monde sur votre téléphone? Est-ce que vraiment Elon Musk vient de faire un salut nazi?
Tu veux voir la vidéo?
Suite d'info, 7 sur 7, la livre, il y a tout le monde qui...
C'est une blague! Tu te fous de moi? Non,
oui,
c'est
la
pas...
vidéo?
Oui, là, on l'a...
Non!
Attends, est-ce que c'est un salut nazi ou est-ce qu'il a montré l'espace en mode spécial?
Une façon très bizarre de dire sa phrase, quoi. Une façon très différente de dire my heart goes on with you, je sais pas quoi là.
Il avait pas le poing fermé, il avait la main ouverte.
Bizarre,
vraiment.
Je peux revoir la vidéo?
Oui.
oui, attends, on la re-regarde. Excusez-nous, ça vient de tomber. La dépêche vient de tomber de l'AFP. Ah. Donc oui, il met sa main d'abord sur son cœur et puis il lève la main. Mais attends, mais est-ce qu'il la met à plat? Avec le bas de sa main vers le bas, oui. Ouais. Ah.
Là, on a fait appel à la VAR, désolé. Hein.
La VAR confirme. Non, c'est pas possible.
Il y a aucune issue pour Elon Musk.
Foutu. Après, ça dépend parce que vu l'état dans lequel il est maintenant.
Ah, aux États-Unis, c'est autre chose. Hein, le rapport au nazisme, etc.
Bah, c'est un suprémaciste en fait, ce type. C'est quoi ça? Investiture de Donald Trump, un geste du bras d'Elon Musk crée la polémique sur les réseaux. What the f... Attends, parce que le mec est quand même sud-africain.
Oui.
On est d'accord, il n'est pas américain.
Il est en Afrique du Sud.
Ah ouais.
Et d'ailleurs, c'est potentiellement pour ça, parce que c'est vrai qu'on a reçu une question de Stam, que tu es encore à l'écoute, tu es chauffeur de bus, on peut pas se parler au téléphone, mais merci d'être à l'écoute. Tu nous dis, pensez-vous pas que Trump et Musk jouent avec le pouvoir et que Elon Musk se présentera aux prochaines élections? Il me semble que Elon Musk ne puisse pas se présenter parce qu'il n'est pas américain. Il n'est pas né en Amérique.
Tout à fait, ouais.
Donc il n'a pas la possibilité d'accéder au pouvoir.
Je pense qu'il y a une règle qui est que si on est naturalisé depuis 15 ans, on peut.
Ah ?
Je pense.
Il est naturalisé américain ou pas Elon Musk ?
Oui.
Ah, c'est un américain maintenant.
Mais c'est pas sûr.
OK. Jeanne GPT, au secours.
Mais même je pense pas qu'il reprendra le flambeau après Trump. Je pense que la présidence sera dédiée à Jed Evans.
Il va pas se mettre.
Oh non, pas lui. Excusez-moi. Attendez, Jed Evans.
C'est vraiment un peu l'homme fort aujourd'hui, le vice-président officiel et Elon Musk, disons qu'il joue le rôle de vice-président officieux, si on veut le présenter comme ça.
Jed Evans.
Jed Evans, c'est le vice-président officiel.
Oui.
C'est lui le vice-président.
Oui, oui,
officiel.
Il était là
c'est lui
à côté.
Qui va vraiment reprendre probablement, très très probablement, le flambeau après Trump. Mais disons que Elon Musk joue un peu le rôle de vice-président officieux, où il va beaucoup plus être à l'oreille de Trump.
Comme un émissaire.
C'est ça. Un conseiller.
Un conseiller. Donc tu penses pas que Musk, le petit ange du côté, mais attends, excusez-moi, mais le problème c'est que, j'allais dire notre ami Elon Musk, moi j'avoue au début, c'est un homme qui m'a un peu fasciné, comme beaucoup de gens.
Moi aussi.
Parce qu'il avait ce côté Tony Stark, tu vois.
Tony Stark justement est inspiré par Elon Musk.
Ah ouais.
Ils ont calqué le personnage de Tony Stark sur Elon Musk.
Eh ben écoute, voilà. Donc il avait cette aura un peu de tu vois de million dollar baby possible. Enfin tu vois, il a la possibilité en un geste de pouvoir faire énormément de choses pour l'humanité. Que ce soit en termes technologiques, donc la santé, le côté aussi de la conquête, etc., et tout ce qui peut venir. Et au fur et à mesure du temps, je sais pas, c'est je comprends pas très bien. Mais le problème, c'est que là, avec potentiellement un salut hitlérien juste après la prise de parole de Donald Trump, qu'est-ce qui va se passer pour lui? Parce que, excusez-moi, mais on roule tous, il y a beaucoup de gens qui roulent dans des Tesla là dans le monde entier.
Oui.
Donc si maintenant tout le monde commence justement à prendre position aussi politiquement sur les denrées qu'on consomme d'Elon Musk, son business va complètement être déchiqueté potentiellement. Est-ce que il va être mis au banc à un moment donné de
tu vois, disons qu'une grande partie de l'électorat de Trump est aussi suprémaciste blanche. Donc je pense pas qu'un geste nazi va plus les choquer que ça.
Bah quand même, enfin je veux dire.
Après peut-être, tu penses peut-être Lara au niveau, chez nous par exemple, les gens qui ont été cela ici.
Dans le monde entier.
Là du coup oui c'est vrai que je sais pas. Moi je vais pas m'avancer hein, mais bon c'est vrai que c'est une question qui peut se poser. On sait jamais. Mais là du coup ça dépend des gens qui possèdent les Tesla, des gens qui participent au commerce de Musk sans pour autant. Enfin voilà quoi, ça dépend des personnes qui achètent. Et ça, on ne sait pas trop comment ces
bah, personnes avant. Là, tu vois, enfin, bon, ça commence à devenir un peu puant. Je suis navrée, mais je veux dire, Mark Zuckerberg d'un côté, qui dit, voilà, on va totalement changer notre modération sur tous les réseaux Meta. Maintenant, voilà, parce que nos algorithmes sont un peu trop restrictifs, coercitifs, tout ça, et on a vu qu'il y a des choses qui sont passées dedans, qui étaient de l'ordre de la liberté d'expression. Donc, quelque part, ça va être un terrain maintenant sur lequel tout va pouvoir être dit. Oui. Peut-être que c'est pas une mauvaise chose, parce que peut-être que justement la balle va être poussée tellement loin que ça va être nauséabond, tu vois. C'est déjà horrible, mais comme il y a cette lecture de dire ouais, mais il y a quand même une censure, que là maintenant il y a plus de censure en soi. Donc tu vois ce que je veux dire ? Ça peut faire l'effet inverse.
Ça peut vraiment nous mettre dans la merde. Hein.
À quel niveau, Bilal ?
Libérer totalement la parole, dans l'idée que ce serait la liberté d'expression, ça reviendrait juste à dire que chacun peut dire ce qu'il veut sans être poursuivi, et que du coup, on pourrait être libre de venir et de dire « moi je suis néo-nazi ». Alors que à quel moment est-ce qu'on peut entendre, enfin à quel moment est-ce qu'on peut, un discours néo-nazi peut être entendu dans nos sociétés ?
Et puis aussi, bon, moi en fait pendant longtemps, je me suis dit que pour face à ce genre de discours-là, les gens sont assez intelligents pour pouvoir se dire non, quand même, ça va. Enfin, les discours néo-nazis, c'est bon. Enfin, on sait que c'est tout ce qui est proféré par des gens qui ont des pensées pareilles. Ben, on ne doit pas les croire. Seulement, enfin bon, faut quand même. Il y a quand même des personnes qui peuvent être réceptives à ce genre de discours, et c'est vraiment la raison pour laquelle, comme tu dis justement, un périmètre d'expression et pas une liberté d'expression. Oui. Et je trouvais ce que tu dis très important parce que en soi, je pense pas que tout le monde est assez intelligent pour pouvoir distinguer le vrai du faux et ce qu'il faut écouter de ce qu'il faut pas écouter non plus. Donc c'est pour ça que oui, c'est comme tu dis, Bilal, vraiment une liberté totale d'expression, il faut pas, c'est dangereux parce qu'il y a des gens qui sont trop bêtes pour ne pas comprendre ce qui est bon et pas bon à indurgiter.
Et tu sais que ce que tu dis là, en plus, on l'a déjà vécu dans notre histoire. Dans le sens où, à l'époque, quand Hitler faisait encore ses speeches pour tout doucement monter au pouvoir, beaucoup d'Allemands dans leur maison, et ça, on a plein de témoignages, que ce soit écrits, etc., qui disaient impossible que cette personne monte. C'est pas possible. Les gens ne peuvent pas être aussi bêtes que pour croire en ce qu'il disait. Pourtant, Hitler est bel et bien arrivé au pouvoir.
Bien sûr, bien sûr.
Mais parce qu'il fait appel à nos émotions, à nos peurs.
Il a été élu démocratiquement, hein, donc.
Oui, il a été élu démocratiquement.
Ben la même chose pour Trump en ce moment, qui clairement, enfin quand t'écoutes, c'est ça qui est terrible, c'est que quelque part c'est difficile parce que les mots en fait sont porteurs d'émotions.
C'est et ils très
sont,
important.
Voilà.
Faut pas les
voilà, c'est vraiment les mots, comment ils sont utilisés, en fonction de là où tu regardes, tu peux comprendre des choses différentes, mais ça va chercher quelque chose chez les gens si tu es déjà dans cette idée ou dans une certaine détresse, tu vas quelque part te rapprocher de ces discours-là en pensant que ça puisse venir à ton aide, à ton secours. Or on voit quand même entre les lignes ou dans la façon dont sont gérés les États, etc., par des personnes un peu omniscientes, et de la façon dont il a envie de gérer ça avec des manias à côté de lui qui gèrent des médias, des points militaires, etc., ça fait penser quand même à certaines dictatures qu'on peut voir dans les pays et qu'on condamne. C'est problématique, mais où
c'est l'art
se
de jouer
trouve
avec les mots.
Tu joues avec c'est les mots.
C'est l'art de jouer avec les mots et de dire que c'est démocratique. En fait, dans la société, que ce soit occidentale en général, et je pense même au niveau mondial, on a tous cette idée que, parce qu'on nous l'a inculqué, que la démocratie c'est la voix du peuple. Donc qu'il suffirait que les gens votent pour que ce qu'ils aient décidé de voter soit démocratique. Mm-hmm. Ça c'est l'idée qu'on a toujours eue de la démocratie, l'idée que tout le monde en général a de la démocratie, consciemment ou inconsciemment. Mais le truc c'est que ça, cette idée de démocratie, c'est une idée antique de la démocratie. Donc c'est l'idée de l'époque, mais des milliers d'années bien avant même la naissance de Jésus-Christ. Donc
des penseurs qui
n'ont pas vécu aujourd'hui. La démocratie aujourd'hui se définit avant tout par l'état de droit. Donc le fait que le droit prime sur tout.
Mm-hmm.
Donc c'est-à-dire que même si demain, par exemple, nous étions soumis à un référendum et que l'ensemble de la population belge, remettre la peine de mort. Oui, mais c'est pas démocratique.
Pourquoi ? Explique-nous.
Parce que la loi l'interdit. Et parce que l'état de droit, la constitution belge, est au-dessus de tout ce qu'il y a en dessous. En fait, l'état de la démocratie se vraiment se définit par la soumission à la loi et à l'ordre. Mm-hmm. Cet ordre vient créer et vient pacifier la société grâce au débat.
OK.
Mais c'est pas parce que une personne, c'est pas parce qu'un groupe de personnes vote que leur décision est forcément démocratique. Ce qui est démocratique, c'est la manière, le processus dans lequel ils s'inscrivent pour voter une loi. C'est pas, par exemple, quand Orban dit qu'il est démocrate,
le Hongrois,
et quand il dit qu'il est démocrate, qu'il respecte la démocratie, que en fait tout ce qu'il fait, bah, c'est démocratique, c'est faux parce que ça vient à l'encontre des droits et libertés de la Cour européenne des droits de l'homme et de toutes les chartes auxquelles la Hongrie s'est pliée et s'est soumise et a signé. Ouais. Donc c'est avant tout ça la démocratie.
Oui, mais c'est-à-dire que là tu parles par exemple de lois qui ont été votées en au-delà de la Hongrie, auxquelles la Hongrie a elle a ratifié des choses. Quand tu parles des lois d'un pays, quelque part nous on est capable de désigner des personnes pour changer les lois aussi. Donc
oui, mais en fait il y a toujours cette idée de moralité. Il y a une phrase en Sciences Po qu'on dit qui est un peuple ne peut rendre juste ce qui est injuste. Or, toutes ces idées de justice et d'injustice, eux, sont définis par des concepts comme les droits. Oui, ça, c'est tout ce qui est droit universel, etc., etc. Donc, le respect de la démocratie, c'est avant tout le respect de la moralité et de la justice. À partir du moment où quelque chose n'est pas juste, alors elle n'est pas démocratique, même si
elle est votée,
même si elle est soutenue par la majorité d'une population.
Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est en ça que le mot démocratie est quand même galvaudé.
Oui.
Puisqu'on l'utilise en disant, voilà, d'ailleurs Trump l'a utilisé dans son discours, en disant, voilà, j'ai été voté démocratiquement et donc je vais défendre la démocratie. Et d'ailleurs, ce mot est aussi utilisé quand les États-Unis, par exemple, font valoir leur droit d'ingérence dans certains pays pour aller faire la guerre en disant, on va vous amener la démocratie.
Oui.
Bon, c'est un mot, tu vois, qui est utilisé un peu comme un drapeau, comme ça, et qui veut rien dire. Enfin, je veux dire, c'est une idée, alors tout le monde fonce avec le cœur en se disant « Ah, on va aller dans des endroits où les gens souffrent parce qu'il n'y a pas de justice, de démocratie, où les gens n'ont pas la parole. » Mais au final, on voit bien comment ça se passe dans les pays en général où ça arrive.
Oui,
c'est qu'il n'y a que, quelque part, la loi économique qui règne.
Oui, il n'y a que l'argent.
Oui.
Si on peut le dire comme ça.
Oui, absolument. L'argent. Donc, quelque part, on est soumis tout en haut à la loi économique du pouvoir, de l'argent, et c'est sans doute ce qui est en train de se passer de manière très visible avec les États-Unis et avec cette investiture
très spéciale. Mais ce qui fait peur avec les États-Unis, enfin ce qui fait peur avec l'arrivée de Trump au pouvoir, on a souvent dit que le président américain a beaucoup de pouvoir à l'international, mais quand il est à l'intérieur des frontières de son pays, il a beaucoup moins de pouvoir.
Pourquoi on dit ça ?
Parce que en fait, à l'intérieur du pays, il y a des checks and balances, donc les contre-pouvoirs, qui font que le pouvoir du président est vraiment beaucoup plus contrôlé et moins puissant à l'intérieur des États-Unis qu'il ne peut l'être à l'extérieur des États-Unis. À l'extérieur des États-Unis, le président a un grand pouvoir. Il a l'armée la plus puissante du monde à son commandement. Il peut maintenir l'économie puisque c'est lui qui désigne le directeur de la réserve fédérale. Donc, il a un grand pouvoir à l'international. Il peut signer des traités, ouvrir des bases militaires, envahir des pays s'il le souhaite. Il a
d'accord,
un grand pouvoir.
D'accord,
mais à l'intérieur, il y a 50 États qu'il faut convaincre, il y a 50 gouverneurs, il y a 100 sénateurs, il y a 435 députés qu'il faut contrôler et qui te contrôlent aussi, et la Cour suprême. Donc, à l'intérieur des frontières de son pays, il est beaucoup plus contrôlé. Maintenant, ce qui fait peur justement, c'est que, en fait, tous ces contrôles sont en train de disparaître parce que la Maison-Blanche est républicaine, la Cour suprême républicaine, la Chambre républicaine, le Sénat républicain. Tous les pouvoirs et contre-pouvoirs qui sont censés normalement contrôler, se contrôler eux-mêmes, sont tous aujourd'hui aux mains d'un seul et même parti, celui de Trump, les Républicains.
Il n'y a pas de balance, quoi. Il n'y a pas de contrebalance.
En fait, il n'y a pas de contrebalance du pouvoir. Mm-hmm. Et ça mène aux dérives autoritaires.
Oui, oui. C'est ça qui fait peur. Mais c'est quelque chose qu'il travaille depuis, qui se travaille. Enfin, je veux dire, il travaille. Ça se travaille, en groupe depuis des années, en fait.
Mais depuis déjà sa première présidence. Dès sa première présidence, il a déjà commencé à déjà nommer les juges de la Cour suprême pour créer cette instabilité entre républicains et démocrates et faire en sorte que les républicains soient majoritaires au sein de la Cour suprême. Mais aussi tout simplement en allant dans toutes les juridictions du pays et en nommant des juges qui lui sont fidèles, qui lui sont acquis.
C'est ouf.
Et d'ailleurs, il avait dit une phrase assez étonnante pendant la campagne, c'est « je serai dictateur, mais juste pendant un jour. Après, j'arrête. » Oui, il a dit ça. À un moment donné, ça m'avait assez étonné. Et justement, c'est assez évocateur, hein, du coup, ouais. Le fait qu'il n'y ait plus de contre-pouvoir et bon, que ça mène aux dérives autoritaires, bon, je vais pas m'avancer, hein. Mais déjà, rien que cette phrase, elle fait un peu flipper. Déjà, en vrai, quand tu me racontes le processus qui est déjà entamé depuis un petit bout de temps déjà, ça quand même, ça laisse penser, enfin, ça, tu réfléchis un peu, tu vois.
Je serai dictateur un jour, et après je m'arrête, mais un jour multiplié par combien? C'est peut-être un jour passé dans le Delaware, un jour passé dans le Wisconsin, un jour passé en Floride, un jour passé. Il fait son petit marché, quoi.
Et donc, il a vraiment le champ libre, puisqu'aujourd'hui, il a acquis une telle popularité qu'il n'y a plus personne dans le Parti Républicain qui a suffisamment de poids, qui est une figure suffisamment importante que pour pouvoir s'opposer à Trump.
Et ça, c'est inédit dans l'histoire des États-Unis.
Le fait que tous les pouvoirs soient contrôlés par un seul et même parti, je pense. Le fait que dans un seul parti, il n'y ait personne qui vienne s'opposer à un leader, ça, je pense pas.
Ok.
Sauf peut-être avec Reagan, encore une fois avec les Républicains, mais lui, il a vraiment été élu à 80%.
Reagan a été élu à 80%. Ouais.
C'est l'une des victoires les plus écrasantes de l'histoire des États-Unis.
Et c'était en quelle année?
Dans les années 80.
Ok.
Il a vraiment bien été élu.
Ok. Et Trump a été bien élu ou alors ça s'est passé
Non, Trump, c'est
non,
ça
j'ai
a été
presque un 50-50.
Ça a été très.
On est passé tout proche. On était potentiellement avec une présidente américaine.
Attends, quoique cette année c'était
serré
que ça, parce que dans les sondages c'était serré.
Pour les grands électeurs, c'était pas serré. C'était une large victoire de Trump.
Pour les grands électeurs, non.
Ouais, pour les grands électeurs, non.
Il a bien œuvré, hein.
Oui.
Et une manœuvre quand même impressionnante, parce que là, il y a tout qui se referme, quoi.
Ouais. Mais après, il n'avait pas un parti démocrate en pleine forme face à lui non plus.
Oui, c'est vrai.
Et il avait une Kamala Harris qui est arrivée au milieu de la course. Elle a pas commencé la campagne électorale. Biden a dû se retirer. Et ensuite, elle a dû reprendre le flambeau pour une campagne électorale américaine.
C'est impossible.
Franchement, courage.
Oui, c'est vrai.
Sans compter l'argent qu'il y a derrière, une campagne électorale, c'est en moyenne $1 milliard. Ah écoute.
C'est de la folie. C'est vrai que, et puis, quelque part, peut-être que les démocrates se sont avancés sur des sujets qui ont quand même heurté énormément la société américaine. Il y a des choses où peut-être que pour certaines personnes qui étaient encore indécises, ou même qui étaient, il y a beaucoup de gens qui ont switché, hein. Des démocrates vers Trump. Il y a plein aussi de minorités, ce qu'on appelle les minorités.
Et ça arrive assez régulièrement, le fait que des républicains switchent vers les démocrates et que les démocrates switchent vers les républicains, parce que leur concept de parti n'a rien à voir avec le nôtre. Nous, quand on dit qu'on est MR, engagé, PS, PTB, écolo ou quoi, c'est vraiment qu'il y a une idéologie derrière, une identité propre, qui fait qu'on se rattache à ce parti. Aux États-Unis, c'est pas du tout ça. Aux États-Unis, un député ou un gouverneur peut du jour au lendemain devenir démocrate et redevenir républicain.
Ça
ne pose aucun souci. Il n'y a pas cette logique du parti qui te dit de faire ce que tu dois faire.
C'est une question de programme, alors.
C'est une question de volonté propre.
D'accord.
Donc si demain le congressman par exemple ou le gouverneur se dit moi la loi que sont en train de proposer les républicains m'intéresse, je vais voter républicain.
D'accord. Donc c'est vraiment une question du coup de
ça
disait programme et peut-être de loi, de
D'appréciation personnelle.
C'est sur le moment quoi, c'est segmenté en fonction c'est particulier, j'avoue que
il y a pas cette idée de un parti et c'est tout.
Et de là même vient les swing states, c'est-à-dire vraiment des états qui à un moment donné sont d'un côté et puis de l'autre là où quelque part ici dans la société belge, française, peut-être européenne, vraiment des blocs quoi, qui fonctionnent et ça bouge pas trop. Sauf récemment avec quand même une poussée quand même et parfois des switches vers les extrêmes, et des gens qui étaient pas du tout dans ce monde-là avant et qui ont dit bonjour au côté radical parfois de la politique. On va continuer notre discussion. On va se mettre Rosé et Bruno Mars pour le plus grand plaisir de Jeanne. Et des petits enfants dans les lits, parce que j'ai vu une petite vidéo d'un bébé qui réveille sa maman la nuit. Il devait avoir peut-être 8 mois ou 9 mois, et dans la nuit avec la dashcam de la chambre, il est là, ah pata pata, ah pata pata, et il danse et sa maman est là, oh là là, please dodo dodo. Et justement Rosé a répondu à cette demande. Je suis vraiment désolée, madame. Vraiment désolée pour APT. Mais bon, on va se l'écouter et on se retrouve juste après pour la suite de notre émission. À tout de suite. Fun Radio. Qu'il y avait un burger volo disponible chez Quick. C'est tout nouveau. C'est pour contrer le Blue Monday. Tu vois, quand on est un peu triste et fatigué, comme toi, là, tout à l'heure, Jeanne.
J'aurais bien eu besoin de ce petit burger comfort food, là.
Eh ben, ouvre grand la bouche, c'est ce qu'ils te disent, d'ailleurs. Parce que tu t'es pas prête. Moi, j'ai pas encore goûté, mais...
Ça ne saurait tarder.
On va goûter ce burger volo et on va voir si il volo la peine. Are you ready? What's up, guys? This is Bruno Mars. Hi, this is Rosé. Enjoy dance music.
Are you 20h-23h, c'est Larabelle Rose and Friends sur Fun Radio.
Il est là. Qui ça? T-R-U-M-P. Trump. Your man.
Yourself off the ground, I said.
Your man.
Cause you ran a new town, that's no need.
Ok, pourquoi cette chanson, les amis? Pourquoi cette chanson? Depuis qu'il fait tous ses discours, quand il est en tournée, etc., il choisit tout le temps les Village People, cette chanson de 1978, YMCA, qui est quand même un hymne de la communauté LGBT dès le départ. Trump, il n'est pas connu pour défendre les LGBT. Les LGBT.
Non, je dirais même plutôt l'inverse.
Ah oui. Oui, absolument. Et pourtant, il danse à chaque fois sur les Village People. Il faut savoir que, il faut sachez que, c'est même pas une chanson américaine. C'est des Français qui ont composé.
Oui,
les amis.
Bien sûr
ceux
que
qui chantent,
oui.
C'est deux Français qui ont composé
c'est
le son.
C'est deux Français qui ont composé le son. Ouais. Qui sont en plus des Français, nés à Casablanca. C'est des Marocains. Français.
Bah, tu rencontres, c'est chez toi.
Mais chez moi.
C'est chez toi.
C'est Jacques Morali. Et Henri Bellolo, qui est devenu plus tard en plus le fondateur de Scorpio, le label Scorpio incroyable. Donc en fait, Donald Trump, qui est vraiment protectionniste sur les États-Unis, qui est pas méga en phase avec les questions LGBT de manière générale, arrive dans ses discours de campagne et même à l'investiture sur Village People, YMCA, titre composé par des Français d'origine marocaine, on est bien. Il est au courant ou pas?
Bah, je pense que...
Je savais pas.
Il est au courant.
Ouais, il est trop courant. Mais il trouve la musique. Il trouve.
YMCA, it's fun to stay at the YMCA.
Merci. Bon, voilà, c'était la petite histoire sur YMCA. Village People, c'est ouf. Il pense qu'il danse sur un truc américain. Moi, je suis pas sûr qu'il soit au courant, tu sais.
Bah, je pense que c'est un peu comme un peu tous les extrêmes. Ils pensent tous que leur truc est vraiment pur sang de leur pays, alors qu'en fait, pas du tout. Ça vient d'autre part.
Oui, c'est vrai que c'est bien un truc d'Amérique, ça, tu vois.
C'est pour ça, après, le syndrome Zemmour.
C'est ça, c'est aussi penser que tout est à nous.
Ouais. Le syndrome Zemmour aussi, un petit peu, tu vois.
Oui, aussi. Mais je pense que là, c'est plus syndrome Trump avant Zemmour. Je pense que, l'Amérique influence l'Europe par
l'inverse. Ah, ça vient de chez eux, tu dis.
C'est généralement de chez eux que ça
vient. Bon, on les a pas attendus pour Jeanne, au secours!
Au secours, Jeanne!
Jean-Marie Le Pen était là avant.
Il était là, le bouc. Mais avant lui, il y en a un autre aussi. Mais bon, bref.
Ouais.
Bon, voilà.
Il était autrichien, je rappelle quand même.
Voilà.
Mais c'est pour l'Allemagne qui s'est battue.
Oui, c'est vrai.
C'est pour vous dire que les extrêmes, généralement.
Tu peux potentiellement avoir des origines qui sont pas de là et devenir encore plus radical que on en connaît. Moi, je connais énormément de gens. Oui, voilà ça. Je connais énormément de gens qui sont des immigrés ou des enfants d'immigrés et qui soutiennent des causes anti-immigrés. Bah,
celui qu'on connaît le tous, Zemmour.
Voilà. Mmh. C'est qui? C'est quel téléphone là qui...
Ah, c'est moi.
C'est toi, c'est quoi? Tu t'appelles qui là?
De Musk.
Le discours de Musk?
Ouais, le discours.
Mais pourquoi il est en train de parler là?
Non, c'est parce que le truc où il a fait le bras d'honneur, je l'avais...
Mais sois pas gêné. Attends, mais notre stress, ça va. Et tu vas pas te faire réprimander. Hein. C'est-à-dire, enfin voilà, il se passe quoi?
Non, du coup, je voulais juste revoir le bras d'honneur parce que je faisais un enregistrement vidéo pour le mettre après sur mon...
Ah, t'es en train d'enregistrer, ouais. Tu peux pas baisser.
Ouais,
mais va mettre le téléphone là-bas alors.
Oh,
si tu veux, comme ça, tu enregistres tout le truc. Et tu rates pas ton histoire. Enfin, ça va là, on n'entend plus. Hein.
Merci beaucoup, c'est gentil.
mais la
création de contenu avant tout.
Mais oui, mais je comprends quoi. Donc t'es en train de... Ah oui, parce que si jamais après la vidéo n'est plus disponible, je rappelle quand même pour les personnes qui sont en train de se brancher que Trump est le 47e président des États-Unis. Ça y est, il a fait son investiture. Et là, dans l'émission que nous annonce Irène de manière inopinée, c'est mon mot préféré, qu'apparemment au moment
ton mot potentiellement préféré, ouais.
Si que potentiellement Elon Musk
aurait fait le salut nazi.
Un salut nazi, absolument. Elle avait la main comme la reine d'Angleterre, rien à voir.
Non mais attendez, moi je fais tout avec grâce et élégance.
Et tu vas être dans public demain.
Non, mais
Jeanne Brassine a fait un signe.
Une mousquette nous ermouleur. On va faire un montage.
Absolument, on va prendre ta voix et ton visage et on va juste te faire dire des choses horribles.
Non, c'est horrible.
Mais c'est pour ça qu'il faut faire attention avec nos gestes ici. Moi, des fois, je monte la clim.
Mais c'est vrai.
Baissez la clim. Et là, c'est le drame. Il suffit de prendre un screenshot, c'est fini.
La Rabelle Rose
a des intentions tout à fait... pas du tout honorable, alors que si, franchement.
Elle ignore certainement qu'un membre de son équipe est juive.
Putain, t'abuses. Mais on n'a pas de problème ici, hein. Ici,
Est-ce qu'il faut le préciser seulement?
Bah ouais, mais bon. Non, mais... Fous la merde. Non, vraiment, t'as jeté un pavé dans la mare, là. Non, je rigole. Mais il est vraiment parti, notre ami.
Ah, mais tu lui as dit, vas-y, mets ton téléphone
là. Mais moi, je croyais qu'il allait déposer le téléphone sur la table et qu'il allait revenir dans l'émission.
Enfin, attention le bras.
Attention le bras. Oui, c'est vrai. Ça va, Noah?
Oui, ça va.
Donc, c'est fini le discours de Trump?
Pardon?
T'as déposé ton téléphone ou alors le discours d'Elon Musk est fini?
Je t'explique tout, en vrai.
Explique tout.
J'avais fait une vidéo pendant la pub, sauf qu'il n'y avait pas le son. Et là, du coup, je l'ai refait avec le son.
Oui, d'accord.
Mais ça prend pas. Du coup, je vais remettre seulement celle où il y avait pas le son.
Ah oui, parce qu'en fait, peut-être que quand tu filmes, ça devient noir.
Ouais, je vais
devoir relayer
deux fois.
De quoi?
Je vais devoir relayer.
Non, mais t'inquiète pas, je vais la remettre comme elle était tout à l'heure.
Attends, t'as réussi à faire l'émission et à poster un truc en même temps?
Oui.
Pendant la pub.
Mais t'es ouf.
Ouais.
Pas mal. On aime.
Merci. Bon. Non, j'arrête mes bêtises, c'est bon.
Non, mais ça va, mais soyons naturels. Tu fais comme tu veux. Et donc, on est en train de parler de YMCA sur l'investiture de Trump. On a bien chanté. On pourrait peut-être terminer l'émission avec cette chanson, tu vois, en entier, quoi.
Franchement, honnêtement, c'est un peu une musique de boîte de nuit, tu vois. Tu mets ça...
Absolument. Pour lancer l'after de Lucas, qui est prêt. Je vois déjà qu'il y a du Daft Punk chez Lucas. Et ça va être la fête, comme d'habitude. On va terminer l'émission sur YMCA. Comme ça, vous le savez.
Comme ça, on vous met dans l'ambiance.
Comme ça, on vous met dans l'ambiance de la soirée. Par contre, changement d'ambiance. Cassage de move, notre ami Trump, on a évoqué un peu le côté militaire et tout. On n'a pas parlé de l'OTAN, on n'a pas parlé du Groenland. C'est quoi ces bails là? C'est de nouveau la même chose qu'avec TikTok, c'est des effets d'annonce?
Oui, c'est des effets d'annonce. Ouais, ils vont envahir le Groenland, ils vont envahir le Canada. Enfin, bon, faut prendre un peu à la. Oui, pardon, excusez-moi. Mais du coup, oui, le Canada et le Groenland, bon, le Groenland, ça appartient au Danemark, hein, si je me trompe pas. Du coup, s'il attaque le Groenland, il attaque le Danemark, donc il attaque l'OTAN, mais il fait partie de l'OTAN. Donc bon, c'est un peu.
C'est par rapport à une base qu'il y a là-bas, justement, au Groenland. Apparemment, il y a une base américaine de l'OTAN, mais qui est un peu négligée.
Ça, j'en sais pas grand-chose.
En fait, la raison pour laquelle il fait toutes ces annonces, c'est pour deux raisons. Un, la négociation.
Oui.
C'est qu'il fait monter la pression pour pouvoir ensuite mieux négocier et relever des petites subtilités. Par exemple, quand il dit la défense du Canada est entièrement soumise à celle des États-Unis, alors pourquoi pas faire un seul grand pays, ça sera plus simple.
Mmh.
C'est une manière de dire aussi au Canada, va falloir investir là dans ta défense parce que je serai pas là tout le temps et tu commences quand même un petit peu à me saouler, à bouffer mon argent.
Okay.
Donc c'est plutôt dans ce sens-là. De toute façon, il ne pourrait pas envahir le Canada, il ne pourrait pas rattacher le Canada, puisque dans la Constitution américaine, il est dit que le Sénat et la Chambre peuvent faire voter un 51e État si c'est une république.
Mmh.
Le Canada est une monarchie.
Ah.
Donc ils ne peuvent pas. Constitutionnellement, ça marche pas.
Bah, il faut.
Attends, mais j'aurais appelé plein de trucs dans cette émission.
Ouf. On apprend de dingue.
Donc
notamment qu'il y a un burger volo au Quick. Apparemment, il y a un nouveau burger volo. Vous êtes au courant de ça?
Non, pas du tout.
Bah, vraiment pas.
Alors moi, en tant que fan de Quick, j'étais bien évidemment au courant. J'ai même commenté leur publication teasing pour savoir de quel burger il allait s'agir. J'avais pas deviné, évidemment.
Bah non, parce que c'est hyper original, j'ai jamais vu.
Hyper.
Un burger volo, non mais.
Mais faut dire que Quick, ils font souvent des burgers un peu, tu vois, ils avaient fait le Bellicatesse avec
les gaufres. Ouais, mais ça a du sens parce qu'il y a plein maintenant de petits restaurants, etc., ouais, qui ouvrent, tu sais, des burgers gaufres, pas mal.
Ouais, mais c'est quand même original.
Très original. Mais alors le burger volo, là, on est dans l'originalité absolue. Ah,
vraiment, mais ils sont intelligents quand même, hein, pour inventer un truc comme ça. Je sais pas qui est le génie qui est. Ouais. Non, vraiment, c'est incroyable.
On va goûter en tout
bien
cas. Ça attise notre curiosité. Tout ça pour revenir à.
Bah, Trump.
L'OTAN,
oui. Le Canada, la République, le roi.
Ouais, le fait que ce soit une monarchie. Et la deuxième raison pour laquelle il fait tout ça, c'est parce que, il y a le réchauffement climatique qui crée la fonte des glaces. Et ça ouvre, en fait, des voies de communication et des voies de communication vers tout ce qui est ressources naturelles en Arctique.
Ah, c'est vrai que j'ai fait un bon bruit de, on dirait un paquebot, on dirait un brise-glace, quoi. Ok. Donc,
contrôler le Groenland. Enfin, le Groenland, c'est avoir une base directe pour directement aller avoir les ressources. Le Panama, pour tout ce qui
est le canal de Panama.
Le canal de Panama, c'est tout ce qui est circulation
des bateaux,
voies maritimes,
avec toutes les taxes qu'il y a.
Et le Canada
est en train de négocier ça, en fait, ouais, finalement.
Et le Canada, c'est une petite prime, quoi. C'est un petit bonus.
Est-ce que t'es en train de dire que Trump est un fin négociateur?
Globalement, oui.
Il fait ça bien, en fait.
C'est un négociateur, on peut pas le nier. Le gars, il est dans tout ce qui est business, etc., depuis des années. Il a toujours fait ça. Donc, et il serait pas fait des milliards non plus s'il n'était pas un bon négociateur à un moment ou à un autre.
Et donc?
Donc, je pense qu'il sait quand même renifler les bons coups et il sait comment négocier.
Donc, quelle est la crainte par rapport justement à ça? Au fait qu'il transforme son pays en une immense entreprise et que, allez, si on prend le parti de ceux qui défendent justement cette idée, il va pas faire monter le pays dans son PIB, dans ses exportations, est-ce que ça va bien se passer ou pas? Ce sera au détriment de qui, de quoi?
Ça sera au détriment déjà des immigrés qui sont aux États-Unis. C'est les premières victimes. Trump avait dit plusieurs fois que une fois qu'il serait au pouvoir, il ferait une grande rafle pour virer tous les immigrés.
Il l'a redit dans son discours. Là, il l'a redit.
Ouais.
Mais est-ce que c'est de nouveau comme le Groenland et le Canada, c'est un effet d'annonce ou est-ce que vraiment il va être capable?
Il va pas être
d'aller
capable
aussi
de
loin.
Faire. Il va pas être capable de le faire. Ce qu'il va faire, enfin, là je joue un peu les devins,
mm-hmm,
mais ce qu'il va faire, je pense, c'est surtout faire des grands coups d'éclat où il va arrêter quelques milliers d'immigrants.
Mm-hmm.
Pour les caméras et pour dire qu'il fait, mais il y a 12 millions de personnes immigrées aux États-Unis,
okay,
qui sont tous ultra importants en tant que main d'œuvre économique.
C'est ça.
Hein. Trump ne peut pas juste leur dire ciao.
Tu parles d'immigrés légaux ou illégaux?
Les deux.
Okay.
Légaux et illégaux ensemble, réunis.
Et lui, il parle des deux ou est-ce qu'il parle juste des illégaux quand il dit je vais virer les immigrés?
Pour l'instant, il parle des illégaux.
Non, il dit illégaux. Il dit les illégaux.
Il dit les illégaux. Maintenant, même les illégaux sont quand même super importants pour la main d'œuvre américaine.
Ils travaillent quoi, comme
oui, ils travaillent énormément
partout, comme chez nous aussi, comme en France.
Il peut pas juste leur dire de comme ça du jour au lendemain, c'est ciao.
Donc tu dis que ça va être au détriment quand même des personnes, mais avec des effets d'annonce, enfin avec des éclats pour les médias.
Oui.
Mais donc en réalité, dans la pratique,
je pense que c'est un communicant qui va plus faire de la communication qu'il ne va vraiment transformer le pays profondément.
Mais donc les peurs qui sont exacerbées un peu partout, est-ce que réellement il va y avoir un...
Les peurs, en fait, elles sont à la fois nationales pour les Américains en tant que tels, parce que l'idée d'avoir un président qui est contre toutes ces idées qui sont LGBT, woke, etc., là, ils vont vraiment avoir un vrai ressenti. Parce que dire que du jour au lendemain, on n'en parle plus, ça disparaît complètement du champ public.
Tu penses que c'est vraiment ce qui va se passer? Ou est-ce que quand même la société américaine peut manifester, peut se rebeller, peut... Enfin, il y a des journaux, il y a des...
La société américaine manifeste très peu.
Ah, d'accord.
Elle manifeste très très... C'est pas une population qui est faite pour manifester. Et ça, c'est profondément fait dans l'ADN de l'Amérique. On a fait en sorte de créer les États-Unis pour que les États-Unis ne manifestent pas.
Pourquoi?
C'est sur comme, ça que les États-Unis ont été fondés.
Il y a eu une
différence entre la Révolution française et la Révolution américaine. En se demandant pourquoi est-ce que la Révolution française a fonctionné, pourquoi est-ce que la Révolution française n'a pas fonctionné et pourquoi la Révolution américaine a fonctionné.
Pourquoi est-ce que déjà on dit que la Révolution française n'a pas fonctionné?
Elle n'a pas fonctionné parce qu'elle a amené à de l'instabilité et ensuite à la création de l'Empire avec Napoléon.
Et puis le retour du roi,
la deuxième et troisième, quatrième, cinquième république.
Et puis on rappelle quand même que c'est un moment sanglant de l'histoire, parce que c'est il y a 200 ans là, c'est il y a pas longtemps.
Oui.
Mais ça se tuait à coups de fourche dans la rue,
bien sûr.
A tué des têtes de tout et n'importe quoi, c'était horrible.
Alors que la révolution américaine, elle est vue comme étant réussie, puisqu'elle a apporté stabilité au pays, ce qui lui a permis de monter et de devenir ensuite, au fur et à mesure du temps, première puissance mondiale.
Ok.
Et ça, c'est fait profondément par la construction de l'Amérique. En Europe, il y avait cette idée que le roi avait tout.
La terre, droit divin en plus.
De droit divin en plus. Le roi avait tout. Donc, le roi possède la terre.
Mm-hmm.
En Amérique, il n'y a pas cette idée de le roi possède la terre. Ce qui fait que ici, en Europe, quand le peuple veut se révolter, eh ben, il peut. Puisque ce n'est pas à lui. La terre ne lui appartient pas.
Ah, je vois. Il donc, se révolte contre quelque chose qui ne lui appartient pas, donc il a le droit
pas,
de...
Donc okay. Il a le droit, il a le temps aussi, de se rebeller contre la monarchie, de se rebeller contre les élites, la bourgeoisie, etc. Aux États-Unis, ce qu'ils ont fait pour éviter ça, c'est qu'ils ont créé justement ce principe de propriété privée. Parce que quand on crée le principe de propriété privée, alors on dit aux gens, ça c'est à toi, garde-le et prends-en soin.
Mmh.
Et quand on va dire aux gens, venez manifester parce qu'on est en train de violer vos droits, eh ben les gens vont dire oui, mais du coup qui va traire mes vaches, qui va ranger ma maison,
c'est pas le même principe ici, on est quand même propriétaire ici aussi.
Oui, mais ça arrivé avec le temps. Justement, okay. C'est là que Tocqueville rentre en jeu. Tocqueville, c'était un penseur des Lumières aussi, et lui, c'était justement avec cette question qui était pourquoi est-ce que la révolution en France n'a pas fonctionné, pourquoi est-ce que la révolution aux États-Unis a fonctionné. Et il a rapporté le principe américain ici en France, qui s'est ensuite diffusé en Europe, d'où le fait qu'on ait aussi la propriété privée. Mais avant ça, cette idée de propriété privée en Europe, ça n'existait pas tellement, puisque tout appartenait déjà au roi, le droit divin.
Mmh.
Aux États-Unis, on introduit la propriété privée pour dire aux gens, ça c'est à vous. Alors pourquoi est-ce que vous allez vous rebeller? Si vous vous rebellez, si vous allez manifester, qui va prendre soin de ce que vous possédez? Qui va prendre soin de vos vaches?
Il y a une question de propriété territoriale plus importante.
C'est ça.
It's my property.
C'est ça. Et il y a aussi ensuite un autre principe.
C'est vrai.
Autre principe qui est celui de la division. Il faut diviser pour stabiliser. Plus une société est divisée, plus la société est stable.
C'est le principe de diviser pour mieux régner, quoi.
Oui, mais en beaucoup plus large encore, parce que là, on couvre tout le territoire américain. C'est l'idée d'à chaque fois faire plus de personnes, plus de divisions, et c'est cette division qui crée la stabilité. D'où d'ailleurs le slogan.
Ah oui, ça fait des moins grands groupes.
Unum. Iplubirus unum.
Excusez-moi, j'ai pas compris.
C'est le slogan des États-Unis.
Iplubirus.
Iplubirus unum. Donc de plusieurs, un seul.
Iplubirus unum.
De plusieurs, un seul.
Ok.
Donc de toutes ces divisions, de tous ces États, on a l'Amérique. On a un seul État.
Et la différence avec nous, notre état d'esprit à nous, ce serait quoi?
Nous, on a un peu suivi cet état d'esprit depuis l'arrivée depuis Tocqueville. Avant, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Avant, on était juste, le roi possède, on n'est pas content, eh ben on va faire la révolution. Mm-hmm. Ensuite a été introduite la révolution, enfin la propriété privée, a été introduite aussi la division. Par exemple, l'existence même des partis fait partie de la stabilité. Mm-hmm. Parce qu'on considère en fait, par exemple, s'il y a que toi et moi dans une pièce, mm-hmm. j'aurai plus de facilité à te convaincre, oui. ou inversement, tu auras plus de facilité à me convaincre.
Que
si on est 6 ou 10 ou 15, j'ai déjà plus de difficultés. Et c'est cette difficulté qui va créer la stabilité, puisqu'elle empêche un ou l'autre de prendre
le pouvoir.
Oui. Mm-hmm. Et c'est ça qui est inquiétant justement aux États-Unis, c'est que pour la première fois, tout le pouvoir revient à une seule et unique personne, Trump.
Mais pourquoi ?
Puisque tous les leviers de pouvoir institutionnels sont à sa portée, mais aussi tous les leviers de communication. Mm-hmm. La communication est souvent appelée le quatrième pouvoir. Et ce quatrième pouvoir est quasiment entièrement en main de Trump. Elon Musk, enfin tout ce qui est les grands réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook, etc., sont tous quasiment à sa main à lui. Mm-hmm. Donc il contrôle quasiment tout. Il peut demain, grâce à ses algorithmes, dire toi tu montes, toi tu descends. De manière arbitraire.
Ouais, parce que justement, moi, tu vois, ce qui me fait un peu flipper en soi, c'est que les gens ne puissent plus s'exprimer, qu'on ingurgite aux personnes une manière de penser, tu vois. Et c'est ça qui fait le plus flipper un peu, parce qu'en soi, tu vois, même si t'as quelqu'un qui arrive au pouvoir, tant que les gens peuvent garder la liberté de penser, en soi, on peut encore faire quelque chose, tu vois, mais si les personnes sont elles-mêmes endoctrinées, c'est là que ça devient
le problème,
tu vois. Donc bon.
Écoutez, franchement, il me semble que c'est un peu un mot de la fin, là, ce que vous venez de partager, Bilal et Noah. On comprend mieux pourquoi est-ce que ça fait un peu peur, et que c'est assez inédit dans l'histoire du monde que la première puissance mondiale se retrouve vraiment avec quelque chose de très empirique, avec
dirigeant.
Voilà. Un dirigeant qui maîtrise tous les outils qui sont à sa disposition et qu'il n'y ait pas de pluralité dans ni de contre-pouvoir. Voilà. Merci. Hein, franchement, on a justement un auditeur qui avait envie de partager un peu la même pensée avec nous. Ça va, Tony ?
Ça va très bien, et vous ?
Mais ça va bien. Écoute, on va terminer cette émission avec toi, Tony. Dis-nous ce que tu as envoyé par message.
Bah, je sais qu'on va gravement aller se coucher moins court ce soir.
On va aller se coucher moins court. Mais écoute, elle t'a plu cette émission ?
Bah écoute, moi chaque fois je prends l'émission en cours parce que je travaille jusqu'à 22h.
Ouais.
Bah écoute, voilà, depuis 22h c'est grave intéressant ce qu'on entend sur ce que Noah disait et tout ça.
Oui, merci Tony. Mais voilà, j'avais vraiment envie de faire... c'est difficile de se dire, oui, on va faire une émission sur l'Amérique. Vous avez été vraiment top, Bilal et Noah, parce que franchement, on a pu décortiquer toutes les layers de pourquoi est-ce que c'est potentiellement problématique, pardon, et vraiment aller dans toute l'histoire avec vraiment étayé par son expertise, Bilal.
Merci.
Merci. Du haut de tes 21 ans.
Du haut de tes 21 ans, Tony. Bilal, il a 21 ans, hein. Il nous a mis à l'amende, là.
Bah non, c'est clairement intéressant.
Mais écoute, Tony, tu continues la soirée jusqu'à quelle heure alors tu travailles?
Non, en fait, je termine entre 22h et 22h30, donc chaque fois sur la route, j'écoute, quoi.
Allez, d'accord, tu rentres chez toi, là ?
Ouais, je suis là dans 10 minutes, quoi.
Eh ben, écoute, tu pourras revoir les replays de Noah sur Askip, sur ses réseaux, avec tout ce qui s'est passé pendant notre émission, qu'on a pris au pied levé, les espèces de saluts chelous d'Elon Musk, qui sont disponibles sur tes réseaux, Noah. Askip, A-S-C-K-I-P-E, sur Insta.
Parfait, j'ai rien à rajouter.
Voilà, c'est comme ça. Et toi ? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Bilal ?
Moi, c'est sur Insta aussi, c'est Bilal, E à la fin.
Ah, Bilal E.
Tiré du bas, Fayad avec deux Y.
Fayad, Bilal E, _ Fayad, F-A-Y-Y-A-D. C'est bien ça ? Tony, on te retrouve où ?
Moi, sur Instagram avec mes 80 followers.
Et bien, écoute, on te retrouve en tout cas à l'écoute de cette émission et ça nous fait bien plaisir. On t'embrasse, Tony.
Allez, bonne soirée à vous.
Merci
bonne
à toi aussi. Bon retour.
Bonne soirée, Tony.
Ciao.
Dans,
ciao, ciao. Trop bien. Je suis d'accord avec Tony. Vraiment, on fait des choses.
On va aller se coucher moins con.
Absolument. Hein, on regardera tous les replays beaucoup plus intensément et en ayant un peu mieux compris